Bonsoir. La conférence de presse du chef de l'État tenue vendredi dernier à Kinshasa continue de susciter des réactions. Au cours de cet échange avec la presse, Joseph Kabila a abordé plusieurs questions, notamment l'organisation des élections, les relations avec la MONUSCO et le développement du pays. Quelle lecture faire des déclarations du président de la République? Nous en parlons ce soir avec des analystes. Professeur Pierre Vergence, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Butembo en RDC. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique. Lui va nous rejoindre dans un tout petit moment. C'est Jason Stearns, directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Il est ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. On me signale qu'il est en ligne. Jason Stearns, bonsoir.
Bonsoir.
Merci bien, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président de la République a passé en revue sa gestion de la RDC durant 17 ans lors d'une conférence de presse vendredi dernier au Palais de la Nation à Kinshasa. Durant près de 2 heures, Joseph Kabila a peint un tableau plus reluisant tant dans le domaine politique, sécuritaire, économique et diplomatique. Son principal engagement en ce moment reste la tenue des bonnes élections selon le calendrier publié par la CENI et l'éradication de tous les groupes armés. Mais pourquoi les élections n'ont pas été organisées pour ce troisième cycle électoral, suivant une partie de la réponse du président Kabila dans cet extrait.
Mais bien avant d'aborder le processus électoral, la question de savoir pourquoi est-ce que l'on n'a pas organisé les élections à temps, comme prévu. Il y a ceux qui pensent que c'est de la mauvaise foi, manque de volonté politique, manque de vision. La vérité, c'est que les élections n'ont pas été organisées à temps. C'est parce que en 2012, immédiatement après les élections, de 2011. Les résultats annoncés, le pays était confronté à une situation inédite. En 2012, on avait la ville de Goma occupée par un mouvement M23. Dans cette même ville de Kinshasa et au niveau du Parlement, la demande de la population et de tout le monde, c'était qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation à l'Est ou au Nord-Kivu. Effectivement, on avait tout arrêté. Et on avait orienté le moyen pour défendre la République, défendre la souveraineté de notre pays et l'intégrité du territoire national menacé. Et pendant 18 mois, on avait orienté le moyen dédié à la CENI, présidence, même le Parlement, on avait effectivement orienté le moyen vers cet objectif. Reconquérir et la ville de Goma et une partie du territoire national. Et une année après, c'était chose faite. Est-ce que je regrette cette décision? La réponse est non. C'était la bonne décision. Et avec cette décision, on avait effectivement repris le contrôle de la ville de Goma et du pays d'une façon générale. Alors, il fallait bien préparer le troisième cycle électoral et très bien préparer les élections.
Professeur Pierre Vergence, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Butembo en RDC. Pour commencer, le président Kabila a fixé comme objectif de sa conférence de presse clarifier la situation, informer la population, corriger certaines choses et rassurer la population. Pensez-vous qu'il a atteint son objectif?
Ça, on verra dans les réactions de la population et notamment la réaction de vos auditeurs à cette émission-ci. Mais je pense qu'en gros, il n'a pas répondu aux objections qui circulent dans la population. Je crois qu'ici, l'exemple qu'il donne d'une diversion militaire empêchant l'organisation sur l'ensemble du territoire de la collecte d'informations nécessaires à l'organisation des élections, n'apparaît pas comme très crédible aux yeux de beaucoup de gens. Et c'est un peu la même chose pour les autres arguments. Je dirais, chaque fois qu'il a donné son point de vue, ben on comprend qu'en tant que chef de l'État, il tient ce discours-là, mais en même temps, on voit bien que pour beaucoup de Congolais, ce discours ne ressemble pas à la réalité. Donc je ne suis pas sûr que il aura réussi à emporter la conviction de beaucoup de Congolais. Par contre, ce qui est sûr, et ça c'est nouveau, c'est que, je dirais, pour la première fois, il tient un discours long qui donne une apparence de cohérence à sa position. Et ça, c'est intéressant à observer. Et il a donné rendez-vous au journal dans un mois ou deux pour reprendre sa conférence. Et là, ce sera évidemment très intéressant de voir si il continue à construire son discours, parce qu'effectivement, si son parti veut être présent aux élections, il faut que le président Kabila tienne un discours qui signifie quelque chose. Or, son silence depuis des années était évidemment terrible pour beaucoup de Congolais. Donc je ne pense pas qu'il ait convaincu, mais il a déjà commencé à tenir un discours avec une apparence de logique, et c'est déjà beaucoup, effectivement, dans un système politique où on sait bien que l'oralité importe énormément.
Professeur, son silence était terrible pour beaucoup de Congolais, dites-vous. Pourquoi, selon vous, en tant qu'analyste, a-t-il décidé de s'exprimer maintenant?
Mais je crois que c'est l'urgence à la fois des échéances, si les élections se tiennent, et peut-être aussi les tensions sociales dans la rue, avec des gens qui n'en peuvent plus d'être dans un système où le président ne dit rien, ne fait pas bouger les choses, et donc les gens sont dans une colère froide, et donc il fallait effectivement qu'il y ait une présence, une parole qui soit portée à ce moment-là. Je pense que c'est à la fois les mouvements de rue et à la fois la proximité des élections possibles l'ont poussé à se dire qu'il devait parler effectivement au peuple congolais.
Alors, quand le président Kabila, professeur, dit, par exemple, en ce qui concerne le processus électoral, qu'il commence à coûter plus cher que les développements et qu'il faudrait qu'à un moment, qu'il soit levé des options prendre des décisions courageuses, comment vous comprenez ça?
Il est revenu, d'ailleurs, sur cet argument-là, hein, en disant... Mais je ne veux pas dire qu'il faut supprimer ces élections-ci, mais après ces élections-ci, il faudra réfléchir pour voir si on continue à consacrer autant d'argent. Je dirais que c'est une bonne question, parce qu'il n'y avait effectivement pas besoin de refaire tout le registre électoral. Il y avait une grande partie du registre qui pouvait être refait, qui pouvait être réutilisé. Il y a toute une série d'opérations de la CENI qui n'ont pas été planifiées correctement. Et là, tout le monde sait... les gens qui regardent les chiffres de près, on aurait pu épargner assez facilement une partie significative du budget des élections. Mais là, effectivement, entre le coût de l'élection tel qu'elle doit se produire dans le cycle électoral à venir très prochainement et la réorganisation, on ne sait pas s'il veut dire qu'il ne faut organiser des élections ou qu'il faut organiser des élections à moindre coût, ce qui serait effectivement, à mon avis, assez possible.
Est-ce que dans cette perspective-là, professeur, on ne tomberait pas dans cette analyse que d'autres observateurs font, celle d'une probable révision constitutionnelle pour un référendum, par exemple?
Là, bon, chaque fois que quelqu'un a évoqué les délais ou la Constitution, il a rebrandi cette Constitution. Donc là, on peut s'imaginer qu'il ne va quand même pas toucher au principe du fonctionnement démocratique de l'État, puisque là, c'est aussi un des éléments, un des principes qui est dans les aspects intangibles de la Constitution, hein. La durée et le nombre de mandats du président de la République et l'aspect démocratique de l'État, c'est un élément qu'on ne peut pas toucher dans cette constitution de la RDC. Et donc, voilà, ce serait difficile qu'il reste cohérent. Maintenant, bon, il peut très vite, évidemment, choisir d'être incohérent avec cette parole-là et, s'abaisser à aller dans un autoritarisme qu'on a déjà vu d'ailleurs hein, en RDC et qu'on voit dans des pays voisins effectivement avec des gens qui manipulent complètement la constitution et qui modifient les règles pour pouvoir rester au pouvoir. Mais en même temps, si on veut croire qu'il est de bonne foi, et on peut essayer de croire qu'il est encore de bonne foi, bien en tout cas sur certains aspects de son discours, on peut croire qu'il est de bonne foi. Et alors à ce moment-là, effectivement, ben, on peut se dire qu'il doit préparer quelque chose qui coûterait moins cher, il doit préparer un système, mais c'est vrai qu'on peut aussi le soupçonner, je dirais, bon, de préparer un refus des élections, de préparer un système qui change, un système qui ne serait plus un système avec élections systématiques, c'est-à-dire qui ne serait plus un système démocratique, et effectivement, il y a toute une série de questions qui se posent sur la signification de cette parole, qui est une parole, je dirais,
merci,
qui est peu rassurante pour les démocrates.
Merci professeur Pierre Virgence. Jason Stearns, directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York et également ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU. Comment vous analysez cette conférence de presse du président Kabila? Pensez-vous qu'il a atteint son objectif, comme je l'ai demandé tout à l'heure au professeur Virgence?
Bon, plusieurs choses m'ont frappé en regardant la conférence de presse. D'abord, à quel point le président était à l'aise. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas parlé dans une conférence de presse pareille, mais il plaisantait, il partait dans les digressions, il a parlé pendant plus de 2h30. Donc c'était vraiment frappant. On ne sentait pas que c'était un président qui était sous pression, un président qui parlait avec le temps à une nation en crise. Mais c'est ça un peu aussi mon deuxième point. Il ne pense pas que la nation congolaise est en crise. Il pense d'ailleurs que la nation a beaucoup évolué depuis qu'il a pris le pouvoir en 2001. Et il a montré comment, de tous les points de vue, la sécurité, l'économie, la politique, le pays s'était amélioré. Alors, est-ce qu'il a convaincu? Je ne pense pas. J'ai l'impression qu'il a dressé un tableau que beaucoup de Congolais ne vont pas nécessairement reconnaître. Mais l'aspect le plus troublant dans son discours, pour moi, était la tendance de blâmer les autres, à refuser d'accepter la responsabilité, même en partie. Par exemple, il a dit que la violence dans les Kasaï était la faute des terroristes Kamuina Nsapu. Même si nous savons, avec les rapports de l'ONU, de FIDH, Caritas, que les FARDC étaient responsables d'au moins autant d'abus que le Kamuina Nsapu au Kasaï. Il a également dit que la crise kasaïenne était due à l'impunité pour les rébellions autour de l'indépendance. C'était une analyse, pour moi, bizarre, étant donné que cela a eu lieu il y a 60 ans. Il n'a pas mentionné non plus la manipulation de l'autorité coutumière par son propre gouvernement au Kasaï, qui a beaucoup joué dans cette crise, surtout l'implication de son ancien ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, et j'en passe. Donc, il avait la tendance partout dans son discours de blâmer les autres, mais pas prendre responsabilité. Par exemple, ce qui concerne l'Est du Congo, il a déclaré que les groupes armés étrangers étaient à l'origine de la plupart de l'insécurité dans le Kivu. Mais nous savons qu'il y a plus de 100 groupes armés congolais actifs dans le Kivu et que beaucoup d'entre eux ont des liens avec les FARDC et les élites locales et que les FARDC eux-mêmes sont responsables d'une majorité des violations de droits de l'homme à l'Est du Congo. Donc il est trompeur de se focaliser exclusivement sur les étrangers comme si l'État n'avait pas une part de la responsabilité. Et enfin, l'interdiction des manifestations à Kinshasa. Il a blâmé surtout l'incapacité des partis de l'opposition à organiser des rassemblements pacifiques, en les accusant notamment d'émeutes et de violences, surtout en 2015. Mais il est difficile pour moi de concilier cette analyse avec les scènes que nous avons vécues dans les rues de Kinshasa, Goma, Kasindi, Bukavu, ces dernières semaines, où les manifestations pacifiques, ensemble avec les prêtres, ont été battus, gazés, arrêtés par la police sans provocation. Donc voilà un peu mes impressions. Pour moi, c'était un président très à l'aise, très confiant de lui-même, mais un président qui quand même a peint un Congo que beaucoup de Congolais ne vont pas reconnaître.
Alors, quand on lui pose la question sur ce qu'il peut considérer comme son échec ou sa faiblesse, il dit on regrette, c'est-à-dire moi et mon équipe, le président Kabila bien sûr, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais, c'était ça l'objectif de la révolution. On a traîné un tout petit peu quelques points négatifs de l'époque du Zaïre. En 2018, j'aurais souhaité avoir un homme congolais nouveau, avec une nouvelle manière de voir les choses, de réfléchir et de faire, mais il n'est pas tard, on va continuer à travailler pour atteindre cet objectif. Comment vous comprenez cette déclaration?
Mais bien sûr, il a raison. Il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais, mais il aussi, c'est aussi une façon, je pense, de blâmer, de regarder ailleurs et de ne pas prendre la responsabilité. Il dit, par exemple, il parle des manifestations comme ça, c'est la culture démocratique, parce qu'il a dit qu'il y a la culture politique et ensuite il y a la culture démocratique. Il a dit que les gens n'ont pas la culture démocratique. Et il blâme en quelque sorte les partis de l'opposition de ne pas savoir comment manifester paisiblement. Ce qui justifierait la répression. Je ne pense pas que la répression des manifestations, l'interdiction des manifestations qu'on a eues partout dans le pays depuis, ça fait maintenant 15 mois, cela soit justifié par l'homme congolais, cette manque d'expérience démocratique. Je pense plutôt que c'est une façon de réprimer une opposition qui ne sert pas les fins de la majorité présidentielle. Et donc, pour moi, c'est une façon... Lui-même a dit, je ne veux pas esquiver les questions, mais en fait, il a beaucoup esquivé les questions. Il a esquivé la question de la responsabilité de l'État. Il a aussi esquivé peut-être la plus grande question sur son propre avenir politique. Lorsqu'on lui a demandé si les élections se dérouleraient à la fin de l'année et si lui-même il pourrait démissionner, il a simplement référé les journalistes à la loi électorale et la Constitution. Et c'est une façon d'exprimer la question. Donc pour moi, il a commencé la conférence de presse en disant qu'il allait rassurer le peuple congolais, il allait clarifier la situation. Il n'a pas clarifié la situation.
Alors, quand il parle de la Constitution, le président Kabila rappelle qu'il est le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette Constitution à travers les pays, au moment où les autres étaient restés à Kinshasa, dans les bistrots et les ambassades, lui était sur terrain. Et aujourd'hui, il suit ceux qui disent défendre la Constitution, il s'éclate, il réclame même la paternité de cette Constitution quand il dit, d'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution, Jason Stearns.
En fait, la Constitution a été le produit des consultations larges pendant la transition. Les consultations qui incluent des professeurs d'université, qui incluent la société civile et une grande partie de la classe politique congolaise. Donc, il n'est pas vrai pour moi de dire que c'est lui le seul qui a proposé, qui a développé la Constitution, qui est celui seul qui a battu campagne pour la Constitution. Le référendum, c'était un référendum qui était du point de vue logistique, appuyé, presque organisé par les Nations Unies, avec bien sûr à travers la CEI, à l'époque de la BEMA au Mali. Je pense que ce qu'il est en train de faire là, ce sont de le dire, c'est de pointer le doigt à l'UDPS. Et ce qui est vrai, c'est que l'UDPS avait boycotté l'enrôlement, avait boycotté les élections en 2006. Et que maintenant, ils sont en train de dire, mais voilà la Constitution. Et là, en partie, je pense, il a raison.
Merci, Jason.
Mais ce qui n'est pas vrai, c'est qu'il dit que la classe politique congolaise n'avait pas contribué à cela, et ils ont contribué.
Merci, Jason. Je reviens à vous tout à l'heure. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Pourquoi le président Kabila s'exprime-t-il maintenant, 5 ans après?
Bien, merci beaucoup. Je salue le professeur et aussi Monsieur Jason. Bien, merci beaucoup pour cette question parce que je crois qu'il y a une question fondamentale sur l'opportunité de ce discours aujourd'hui, 5 ans plus tard. En deuxième temps, je vais parler du ton que le président de la République a utilisé dans ce discours. En troisième temps, je vais donner un peu le contenu de ce discours et enfin, je vais terminer par la méthodologie qu'il a utilisée. L'opportunité du discours. En fait, il faut dire quand même, depuis que le mandat du président de la République, le mandat constitutionnel a pris fin, le président et ainsi que le régime en place n'avaient pas des stratégies d'argument pour pouvoir convaincre à la fois la communauté nationale et internationale. Et on est passé par des subterfuges, on est passé par des ruses et tous les moyens politicien pour pouvoir se maintenir au pouvoir aujourd'hui. Et quand on passe le cap, n'est-ce pas, du 31 décembre 2017, qui était considéré comme l'échéance, n'est-ce pas, dans les accords du 31 décembre, il y a un ensemble d'éléments qui, à mon avis, justifient l'opportunité de ces discours du président de la République. Et dans ces éléments, nous avons d'abord, si nous nous projetons dans l'itinéraire du ministre des Affaires étrangères, Il est allé voir le président de l'EUA, donc en Guinée. Après là, vous savez que dans les coulisses, il y a des tractations sur le pétrole qui se trouve dans le parc de Virunga et aussi le dossier Bolloré. Donc la France est restée timide pratiquement depuis qu'il y a eu la répression dans le sang des deux manifestations. Vous avez vu le retard avec lequel la France a fait, simplement parce que la France est sur du dossier d'argent, du dossier
juteux,
effectivement. Elle a mis beaucoup de retard dans la réaction alors qu'elle a toujours pris le devant dans ce genre de manifestation. Troisièmement, un élément de taille, c'est que le parrain du pouvoir actuel, c'est Paul Kagame qui devient le président de l'EUA.
Donc, c'est de l'Union africaine.
De l'Union africaine, exactement. Donc, ce sont parmi tant des éléments qui démontrent un peu le regain de force que le président reprend avec le soutien de cet ensemble d'éléments et bien d'autres d'ailleurs, et le président trouvait l'opportunité de lui dire. C'est ce qui justifie aussi le ton qu'il a utilisé. En fait, quand vous voyez, c'est un défi que le président lance à ses adversaires, tant nationaux qu'internationaux, à ses partenaires, tant nationaux qu'internationaux. Il a donc, dans la méthodologie ici, pratiqué ce que j'appelle des ruptures successives, à la fois avec l'opposition politique interne, suivez le discours, vous allez comprendre, et en deuxième temps, une rupture avec l'opposition d'intérêt qu'on appelle généralement, d'une manière générique, la société civile, donc l'opposition d'intérêt, avec la MONUSCO. Il faut sentir le langage que le président a utilisé à l'endroit de la MONUSCO, qui est un partenaire international, non seulement avec la MONUSCO, mais la communauté internationale aussi. Il a fustigé particulièrement des pays de la communauté internationale, n'est-ce pas, qui semblent prendre position contre lui dans ce dossier. Donc, ce soutien politique dans certains milieux politiques au niveau de l'UIA et de la communauté internationale lui a donné ce regain de force et qui justifie, à mon avis, l'opportunité, le ton qu'il a utilisé, le défi qu'il a utilisé, mais aussi le temps de lancer un défi à ses adversaires au lieu de rassembler le président à radicaliser davantage, c'est-à-dire il n'y a pas moyen aujourd'hui, avec ce discours, de pouvoir mettre les gens ensemble. Tout simplement, il y a dans ma langue, ça s'exprime beaucoup plus mieux, une stratégie qu'on appelle le « bitiki la tuboy ». Ça veut dire, on casse, on détruit tout, on abîme tout et on reprend en zéro et je peux m'accrocher.
Et donc, Joseph Kongolo, à bien vous comprendre, est-ce qu'on pourrait parler d'une victoire diplomatique de la RDC qui a su diviser la communauté internationale aussi?
En fait, sur le plan diplomatique, je ne peux pas dire que la RDC a divisé la communauté internationale, mais elle a trouvé du regain au sein de cette même communauté internationale, dans particulièrement...
Par bien sûr le jeu des intérêts.
Par le jeu des intérêts, ça veut dire dans cette communauté internationale, mais au moins dans les milieux financiers. Voyez-vous, la RDC, enfin pas la RDC, il faut parler du régime en fait, parce que c'est du régime qu'il s'agit aujourd'hui. Donc le régime a trouvé des appuis à ce niveau-là, et à la garantie, n'est-ce pas, de l'actuel président de l'UIA, qui est le parrain du pouvoir de Kinshasa, ça, personne ne peut l'ignorer. Et je crois que ça a revigoré un tout petit peu le président de la République. Et avoir même la forme du discours, vous allez vite comprendre que le président de la République est allé un peu trop vite dans la besogne. Il pouvait encore fignoler davantage, essayer peut-être de changer la forme de son discours. Et là, il est allé d'une manière brute et très peu diplomatique, ce qui démontre bien qu'il est accroché quelque part.
Alors, il n'a pas répondu, Jason Stearns l'a évoqué, il n'a pas répondu à la question sur, pour préciser son sort, comment vous avez perçu ça?
Le président de la République, il n'a qu'une seule stratégie. Toutes les stratégies ayant échoué, la seule qui a échoué, et à laquelle il s'accroche aujourd'hui, et c'est la stratégie du régime, c'est d'arriver à la révision de la Constitution et de se représenter dans les échéances prochaines. Donc, il n'y a pas d'autre stratégie aujourd'hui que le président de la République et le régime en place a. Tout le reste, ce sont des diversions, ce sont des ruses et des mystifications.
Merci. Professeur Pierre Virgence, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Ferdinand Kendamina. Je vous appelle à partir de Goma dans la province du Nord Kivu. À mon avis, cette conférence de presse n'a rien de nouveau, en ce sens que le président de la République n'a même pas eu le courage de reconnaître ses faiblesses ainsi que les problèmes incommensurables que traversent les Congolais, comme qui dirait qu'il vit dans son propre monde. Il a par contre pointé le même Congolais, arguant qu'il est à la base de son échec. Ce qui est, selon moi, loin d'apaiser la tension sociopolitique qui prévaut au pays. Le peuple congolais s'attendait plus à un président unificateur et rassurant, mais malheureusement, il a plongé dans les mêmes discours que sa famille politique, vantant les réalisations qui ne sont pas perceptibles sur terrain, sauf dans son camp politique, s'attaquant même aux instances onusiennes comme pour dire que tous ces mondes ont tort, sauf lui et sa majorité présidentielle.
Professeur Pierre Virgence, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion de Ferdinand de Goma?
Mais c'est évident que monsieur a raison de dire que le président attaque des institutions extérieures, enfin, les autres intervenants l'ont signalé aussi, il attaque systématiquement tout autour de lui dans le monde politique congolais et à l'extérieur. Mais aussi, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'il attaque des gens qui sont par ailleurs critiqués, et parfois pour de très bonnes raisons, je dirais. C'est clair que les troupes de la MONUSCO ne sont pas d'une efficacité effroyable quand elles sont stationnées quelque part, et ça, beaucoup de Congolais l'observent effectivement. C'est clair que la diplomatie extérieure n'a pas comme objectif premier de sauver les Congolais, mais de sauvegarder les intérêts de chacun des États. Et c'est vrai qu'à l'intérieur du Congo, les gens ne sont pas devenus le nouveau Congolais dont tous les Congolais rêvent. Mais en même temps, effectivement, il n'a pas été très crédible non plus, parce qu'il n'a pas montré la part de responsabilité, ça on vient de le dire, et le correspondant vient de dire la même chose, du régime et du chef du régime là-dedans. C'est clair que son discours sur la continuité ou non du système est un discours que je disais particulièrement ambigu. On ne sait pas si ce qu'il veut précisément. Ses réponses sur le respect ou non de la Constitution et son maintien ou non au pouvoir comme président de la République, là je diverge un peu de votre expert, Monsieur Kangolo. Hein. Moi je pense que justement il a tenu un discours qui est volontairement ambigu, c'est-à-dire il n'a pas non plus assumé une rupture, il n'a assumé ni un respect strict de la Constitution, ni une rupture stricte par rapport à cette Constitution. Et on pouvait croire que, avec le ton qu'il prenait, effectivement, de quelqu'un qui était au-dessus de la mêlée, quelqu'un qui n'est pas tracassé par la vie ordinaire et par les manifestations, eh bien, on aurait pu croire qu'il aurait pu, si il avait voulu ouvertement changer de constitution, dire qu'il allait la changer. Mais ça, c'est vrai qu'il est en train d'essayer de manœuvrer, mais je pense qu'il manœuvre toujours en gardant la possibilité de respecter la constitution. Et donc, on ne sait toujours pas dire à long terme ce qu'il veut faire, s'il veut ou non se représenter et continuer à être président de la République après 2018. On ne sait absolument pas de quoi 2019 sera fait dans sa tête, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et donc il laisse les choses tout à fait fermées de ce point de vue-là, en tenant un discours qui est apparemment un discours de respect de l'ordre, respect de la Constitution. Et même, Jason Stearns l'a souligné, il fait comme si c'était lui qui avait fait la Constitution, mais si on continue son raisonnement, si c'est lui qui l'a fait, il pourrait peut-être la défaire aussi. Alors que justement, Jason Stearns a raison de rappeler que c'est pas lui tout seul qui a fait la Constitution, c'est lui et tous les gens qui étaient au pouvoir et autour du pouvoir et la société civile qui ont fait cette Constitution. Et cette Constitution a la solidité, justement, maintenant, de la société civile congolaise et pas simplement du président de la République, qui ne peut donc pas en faire un objet comme si c'était sa simple propriété. Et donc c'est vrai que son discours est très ambigu et je pense que ce
qui, moi, m'a frappé, justement, c'est qu'il n'a pas pris une position de rupture. Quand il critique la MONUSCO, il dit « on va faire une évaluation ». Quand il critique la diplomatie belge ou la diplomatie de la communauté internationale, eh bien, il dit « on va faire une évaluation ». Et donc, il n'y a pas une, non plus une volonté claire, je dirais, comme par exemple Mobutu, à certains moments, avait fait ça en disant « la Belgique est notre ennemi, on va faire ceci » ou « tel pays est notre ennemi, on va faire cela ». Ce n'est pas ça qu'il a pris comme discours,
professeur.
C'est un discours très ambigu où il fait comme si tout allait bien. En fait.
Et donc, en un mot, professeur Virgin, c'est ce que vous pensez, comme disait Joseph Kongolo, que le président Kabila se radicalise. En un mot, s'il vous plaît.
Mais dans ce discours-ci, je ne peux pas dire qu'il se radicalise. C'est un discours qui est tellement ambigu qu'on peut croire qu'il se radicalise si on projette ça sur lui, mais si on l'entend mot pour mot, on peut dire non, il n'est pas en train de se radicaliser, il est en train de se justifier par rapport à la Constitution, par rapport aux institutions, etc.
Merci, professeur. Jason Stearns, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Peter Ouenda, depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Cette sortie médiatique du chef de l'État est conflictogène car elle ne répond pas aux attentes de la population. À mon avis, le chef de l'État devrait plutôt profiter de ce moment crucial et propice que traverse notre pays pour calmer les esprits de tous les Congolais qui s'inquiètent tant sur son avenir politique, même si la Constitution l'a déjà précisé, mais aussi sur la répression sanglante des manifestations pacifiques et même sur la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre qui a donné une forme de légitimité à son pouvoir et aux différentes institutions du pays.
Vous avez dit, Jason, tout à l'heure que pour le président Kabila, il semblait que le pays n'était pas en crise. Pourquoi, selon vous, adopte-t-elle une posture pour quelle finalité?
Vous avez posé une bonne question avant. C'est pourquoi il sort de son silence maintenant? Ça fait 5 ans qu'il n'a pas donné de conférence de presse. Pourquoi il sort de son silence? Pourquoi il dresse ce tableau? Pourquoi il parle de cette façon? Pour moi, c'était presque plus important que le contenu de ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il était très confiant de lui-même. Il parlait d'une façon très à l'aise. Mais pourquoi il sort? Pour moi, il y a quelque chose qui se prépare. Je ne sais pas exactement ce qui se prépare. Mais on a vu des réunions qu'il n'a pas eues cette fin de semaine. Il y a le changement de statut du parti du PPRD. Il y a le changement du seuil de représentativité qui vient de se faire au niveau du Parlement. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Je pense que probablement cette sortie médiatique est liée à cela. Il y a aussi, je pense, l'endormement des États-Unis. Il y a des autres diplomates qui ont été envoyés par-ci, par-là. L'impression que moi j'ai, c'est que c'est un pouvoir qui a décidé que voilà, il est temps maintenant de faire quelque chose. Il était assez indécis pendant un certain moment. Ils ont laissé l'opinion être dominée par les autres, par le CNC, par les marches, par l'opposition. Maintenant, je pense qu'ils veulent aller en offensive. Quoi exactement ils vont faire? Pour moi, ce n'est pas encore clair. Il y a des gens qui disent, jusqu'aujourd'hui, il y avait un article dans la Libre Belgique qui disait que voilà, c'est un premier pas vers le référendum sur la Constitution qu'ils vont le changer pour qu'il puisse, le président puisse être élu indirectement. Il y a des autres qui disent qu'ils vont carrément changer la Constitution pour qu'il devienne, il puisse briller un troisième mandat. Donc, il y a un article verrouillé dans la Constitution actuelle. Pour moi, il n'est pas encore clair exactement ce qu'ils vont faire. Mais je pense que maintenant, ils ont vu que nous sommes à quelques 11 mois des élections, en principe des élections qui devraient se tenir avant la fin de l'année, ils doivent aller en offensive. Et c'est ça qu'il a fait. Mais il l'a fait d'une façon, comme d'habitude, très ambiguë.
Alors, pourquoi, selon vous, ce réquisitoire contre la MONUSCO et l'Église catholique, serait-ce simplement la théorie du bouc émissaire, comme vous l'avez dit, alors qu'on sait que c'est des partenaires avec qui il doit collaborer tôt ou tard?
Je pense que ce sont deux audiences différentes, deux publics différents auxquels il s'adresse. Pour la MONUSCO, c'est la plupart de la population, je pense, qui sera d'accord avec lui. D'ailleurs, dans les sondages, c'est assez facile de voir. La plupart de la population ne comprend plus la valeur ajoutée de la MONUSCO actuellement. Et donc, quand ils blâment la MONUSCO, il est plus facile de blâmer les gens qui sont dans leur 4x4 air conditionné, qui à l'est du Congo, qui eux-mêmes sont coupables des abus de trafic d'or, etc., à l'est du Congo, que de blâmer sa propre armée. Donc, pour moi, la MONUSCO, l'audience de ceux-là, c'est le public en large, pour dire, voilà, les étrangers qui veulent nous donner des leçons, mais eux-mêmes qu'on vienne ici, n'arrivent rien à résoudre. Il a dit, nommez-moi le groupe armé que la MONUSCO a déjà défait. Donc, ça, c'est pour la MONUSCO en général. Pour l'Église catholique, je pense, c'est plutôt une bête à... Oui.
En parlant de la MONUSCO, et pourtant on sait bien que la sécurité, c'est une affaire, c'est une question de souveraineté qui revient d'abord à l'État congolais.
Oui, ça c'est dans l'abstraction. Ça, c'est les gens, les politologues comme nous qui peuvent débattre de cette façon. Mais quand vous voyez une mission d'un milliard de dollars par an, c'est loin au-delà du budget des FARDC, arriver et puis ne pas résoudre le problème, je pense que quelque part, il a raison de poser cette question. Il y a beaucoup de Congolais qui posent cette question. Donc, là où il n'y a pas raison, c'est de dire, voilà, vous n'avez rien fait par rapport à la sécurité. La MONUSCO a soutenu les FARDC par rapport à l'M23, ils ont aidé par-ci, par-là, et comme Merci. Vous venez de dire, la sécurité, en principe, c'est l'affaire de l'État, des FARDC, de la police. Donc, on ne peut pas blâmer la MONUSCO pour n'avoir rien fait. Mais c'est un discours qui passe, c'est du populisme.
Merci, Joseph Kongolo. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu Maniema.
C'est Kakis Biosa à partir de Kindu Maniema. Il est vrai que le chef de l'État était clair dans ses phrases, mais le temps de Mobutu est passé et son temps passera aussi. Ce qui nous reste, c'est des bilans. C'est un pays que la démocratie n'existe pas, la loi et les textes ne sont pas respectés. Le plus grave, sa population vit dans les conditions difficiles. La polémique ne nous servira à rien à part les positionnements des politiciens dans les postes politiques et les autres en faisant les marches inutiles, causant la mort et l'aversion des sangs des Congolais et que nos ennemis en profitent. Mettons l'intérêt de la RDC en avant pour assurer un bon avenir.
Alors comment entrevoir Joseph Kongolo à la suite du processus politique après une telle sortie médiatique? Jason Stearns a dit qu'il pressentait, qu'il se préparait quelque chose.
D'abord, je voudrais dire ceci, que celui qui refuse d'appliquer de remèdes nouveaux doit s'attendre à souffrir de nouveaux maux. Vous savez que c'est un pays où pratiquement tous les processus, n'est-ce pas, de dialogue pacifique pour trouver des solutions aux conflits qui divisent les Congolais politiques. Nous sommes au bout, parce que l'Église catholique, enfin, qui a été impliquée dedans, est aujourd'hui abusée dans cette histoire. Donc nous avons fait passer le temps de résoudre pacifiquement ce problème. Nous sommes en train de passer ce temps-là, aujourd'hui, avec une telle sortie médiatique. Nous nous demandons comment on va rapprocher les positions, comment on va accorder les intérêts, comment on va bâtir le futur ensemble avec un tel discours. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que le président de la République a trouvé du regain quelque part. On l'explique par les aménagements internes, mais je sais que c'est plutôt l'emprise. C'est encore, n'est-ce pas, ce repositionnement sur le plan diplomatique. N'est-ce pas, sur le plan diplomatique, essaye de donner un peu de force. Mais il faut dire que toutes ces choses sont tellement mouvementées, tout est dynamique, que les choses peuvent changer d'un jour à l'autre, n'est-ce pas, et revenir dans la situation d'avant. Jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être sur papier qu'on peut donner une petite avance, mais en réalité, il n'y a pas de regain. Il n'y a pas de regain dans une société telle qu'on l'a peinte par M. Kakis tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un danger, c'est une armée déjà qui est, c'est une armée qu'on est en train de monter, les gens qui sont dans la précarité extrême. C'est une armée, voyez-vous, qui risque encore de concurrencer l'armée officielle. Donc, ce qui est vrai, c'est que on doit accorder les intérêts. On doit rapprocher les points de vue. On doit se mettre ensemble et tenter de projeter le futur ensemble. Dans la radicalisation sur le plan du discours, dans la radicalisation, dans la répression des marches et dans l'étouffement de la démocratie, je crois qu'il y a des fortes difficultés pour pouvoir mettre les gens ensemble et faire les élections apaisées comme ils le veulent.
Projeter le futur ensemble, ça passe par quoi?
Projeter le futur ensemble passe par un rapprochement de points de vue. Il faut un rapprochement. Ce rapprochement n'est pas forcément des débats. Ce rapprochement n'est pas forcément encore des concertations, des dialogues, mais c'est un rapprochement politique pour pouvoir aller dans la même vision. Ici, ce qui nous unit, ce sont les élections pour légitimer l'ensemble des institutions et des animateurs. Donc, qu'est-ce qui nous empêche à nous, n'est-ce pas, de nous mettre ensemble, de lancer, de regarder dans la même direction pour pouvoir aller aux élections?
Il faut encore un dialogue.
Pas forcément un dialogue. Tout a été fait, il y a le texte. Il y a l'accord du 31 décembre. Il y a des textes qui ont été signés, il y a la CENI, il y a autre chose. C'est question de revenir à l'esprit et la lettre, n'est-ce pas, des accords du 31 décembre. Et en ce moment-là, on est dans la même logique. C'est une logique qui a été formalisée. Donc c'est ça l'unité de vision qui a été formalisée à travers, n'est-ce pas, les accords du 31 décembre. Donc ce que le président est en train de faire démontre assez clairement que il n'y a pas du cœur. Ce n'est pas ça sa stratégie. Ce n'est pas ça ce que lui veut. C'est-à-dire qu'il veut autre chose que ce qui a été fait, ce qui a été formalisé avec ses partenaires au niveau du centre diocésain. Donc, ce que je peux demander, c'est de revenir à des meilleures dispositions d'esprit. Il faut revenir à des meilleures dispositions d'esprit, regarder dans la même direction et bâtir le futur ensemble.
Le professeur Virgence a dit qu'il fallait nuancer. Pour lui, le président Kabila ne se radicalise pas.
C'est sa manière de voir les choses, mais le discours lui-même, c'est un défi. C'est-à-dire que c'est une sorte d'arrogance. Le président est sorti de sa stature officielle. Un homme un peu timide, qui parle moins, mais il a un langage très virulent. Donc il a oublié les réflexes diplomatiques. Donc il a été un homme direct, voyez-vous. Et ça montre bien que c'est une façon de radicalisation. Parce que il faut voir les réactions des politiques. J'ai suivi les discours de Caméré, vous l'avez suivi. Caméré est sorti, il y a le G7 qui a parlé. Vous sentez effectivement que c'est difficile de les rapprocher. Merci. Aujourd'hui, parce que tous considèrent que le président s'est davantage radicalisé. Merci. À travers cette sortie médiatique.
Professeur Pierre Virgence, en guise de conclusion, pour vous, le pays va-t-il s'enliser ou on met le cap sur les élections, comme le dit le président Kabila?
Et ça, on n'en sait rien, effectivement. Moi, je trouve que vous avez résumé ma pensée en disant que j'avais dit qu'il n'était pas radicalisé. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers le discours, on ne sait rien dire parce qu'il a les deux portes ouvertes. Et donc, on peut l'interpréter comme il fait semblant que tout le monde va l'interpréter, c'est-à-dire d'une façon non radicale, mais on peut aussi l'interpréter, et c'est la façon, effectivement, dont la plupart de vos auditeurs ont réagi, de façon en disant... Ce discours nous cache des choses, ce discours s'appuie sur une répression incessante depuis des semaines et depuis des mois, et sur une montée en tension, et c'est l'association d'un discours ambigu et d'une action dure qui montre que, pour beaucoup de Congolais, il y a radicalisation. Et donc, effectivement, je ne suis pas certain qu'il n'est pas radicalisé, mais je ne suis pas certain non plus qu'il est radicalisé. Je ne saurais pas dire pour le moment. Et ça, on le verra dans les mois qui viennent. Et comment il va évoluer, comment il va faire évoluer la situation, on n'en sait rien, parce qu'effectivement, il a les cartes en main.
Merci.
Bien qu'il ait commencé à parler, et peut-être, comme dit Jason Stones, qu'il va enfin parler vraiment et qu'il va peut-être là montrer qu'il est radicalisé. Mais
merci.
Ça, on le verra dans les mois qui viennent.
Merci, professeur Jason Stones. En guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC après ce speech du président Kabila? Jason? Voilà, décidément, nous l'avons perdu, Joseph Kongolo. Ah oui, il est encore en ligne. Oui, nous vous entendons. Très rapidement, concluez, s'il vous plaît.
Pour moi, nous sommes dans un moment critique en RDC. Il y a 4 millions de personnes déplacées et 120 groupes armés dans le pays. C'est plus qu'en 2001 quand le président a pris le pouvoir. Maintenant, nous pouvons aller soit vers le renforcement du tissu démocratique, ou nous pouvons éroder ces institutions qui ont pris des milliards de dollars, des années d'efforts pour s'installer. Je crains que si le président rejette les parties les plus fondamentales de cette démocratie, la démocratie et la constitution, qu'il pourrait plonger le pays dans un chaos et dans un désordre
plus grave
qu'aujourd'hui. Donc je pense que vraiment cette
Merci.
Année, c'est l'année critique.
Merci. Joseph Kongolo, juste un mot pour conclure.
Je voudrais dire que l'avenir est brumeux, c'est-à-dire sans clarté, pour rassurer, et cela dessert vraiment le climat de sérénité pour des élections paisibles.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.